Le site de Thiot, mis en sommeil par la SLN en raison de la persistance des exactions depuis le mois d'avril, une procédure qui devrait permettre aux salariés de bénéficier du chômage total exaction. Le Nord en proie à de nombreux feux de brousse aujourd'hui. Les pompiers sont mobilisés avec l'aide des hélicoptères bombardiers d'eau dans la zone VKP, mais aussi du côté de la tribu de Bako. Omer Aneslin n'était pas habilité à signer le mémorandum entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Azerbaïdjan. C'est ce qu'a déclaré la nouvelle présidente du Congrès, Veilma Falaeo. Le mémorandum est donc nul et non avenu, détail dans ce journal. Plonger dans un océan de savoir à l'occasion de la fête de la science. L'événement se déroulera du 18 au 28 octobre sur le territoire et plus d'une centaine d'événements sont proposés gratuitement pour tous les curieux de 7 à 77 ans. Du sport, nous recevions ce midi dans notre Mac des Sports le nouveau bureau de la Ligue de volley de Nouvelle-Calédonie. Objectif, redynamiser la discipline au travers d'actions menées sur tout le territoire. Bonsoir à tous, bienvenue dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Un coup de tonnerre pour Thiot et pour le monde de la mine. La SLN a annoncé ce matin la mise en sommeil du site de Thiot, une décision prise en raison des blocages qui persistent depuis le mois d'avril, mais aussi d'un nombre important d'exactions sur le site, Elisabeth Noir.
Après 6 mois et sans perspective de reprise de l'activité, l'industriel engage la procédure de mise en sommeil. La SLN ne peut toujours pas accéder au site qui a été vandalisé à de multiples reprises. Il y a des vols, des destructions d'équipements par incendie, des exactions qui ont touché les ateliers, les bureaux administratifs, les laboratoires ou encore les villas des employés, sans oublier les engins comme les bulles, les pelles et les camions. À cela s'ajoutent les blocages, les agressions verbales, les menaces et les intrusions répétées sur les installations. La semaine dernière, la SLN a informé l'ensemble des partenaires sociaux et les institutions de cette procédure de mise en sommeil. Jusque-là, les salariés étaient pris en charge au titre du chômage partiel, qui était assuré jusqu'à samedi. La mise en sommeil du site vise, selon un communiqué interne de la direction, à leur permettre de bénéficier du chômage total exaction. Le maire de Thiot, Jean-Patrick Toura, souligne que les dégâts sont effectivement extrêmement importants pour la SLN.
C'était de 13 000, il y a eu tous les actions, là, sur le site minier. Donc la commune de Thiot, au niveau de la SLN, il y a deux sites miniers, il y a Pont des Abeilles et le Plateau. Et puis l'autre mine, la troisième mine, la mine des Coutumiers. La société Somicale qui travaille dessus. Mais c'est bon, la société Somicale n'a pas été touchée par les actions, mais voilà, surtout les deux autres mines, donc, c'est impacté à 90%. Ça va être compliqué pour la SLN de répondre. Et d'ici quelques mois, voilà.
Le maire de Thiot qui est sous le choc, sa commune était déjà largement sinistrée et la mise en sommeil de la SLN est un coup extrêmement dur pour l'avenir, dit-il.
L'information est passée au niveau des coutumiers, du conseil municipal, des employés, l'information à la population dans les jours qui vont venir. Et puis nous, maintenant, à la commune de Thiot, comment on réagit par rapport à la fermeture avec tous les emplois indirects comme les commerces, les stations essence, les marchés qui avaient au bord des routes, tout ça, les mamans, tout ça. Ça devrait m'impacter. Les gens n'avaient pas de médecins, les écoles n'avaient du mal à démarrer. Maintenant, avec cet arrêt, on va devoir créer soit une désertification de la commune. Et puis voilà, on croise ça, c'est la crainte que j'ai pour la commune. Bon, ramener de la confiance, bon, ramener l'économie au niveau de la commune. Et toutes les années là, qui sont passées, là, il y a eu un gros travail de pour investir à Thiot, pour développer Thiot, pour que Thiot n'ait pas une commune abandonnée. Bon, on est arrivé. Et voilà, suite à la commune, on va dire à plat, mais il faut qu'on réagisse. Donc, maintenant, on sait comment on fait pour demain, après-demain, pour réagir, pour le développement de la commune.
Le maire de Thiot, qui d'ailleurs a demandé l'aide de l'État, une aide d'urgence, après la perte quasi totale des emplois dans sa commune. Dans un communiqué, Génération NC exprime sa profonde inquiétude face à l'annonce de la mise en sommeil des sites miniers de Thiot. Le parti indique que cette décision entraînera la perte de 230 emplois directs et qu'elle met en danger 120 emplois indirects. Génération NC précise que le député Nicolas Mezoff a rencontré les syndicats et la direction pour défendre une indemnisation juste et équitable des salariés, témoignant ainsi du soutien total à ceux qui sont touchés par cette crise.
Pendant ce temps, à Kouaoua, la SLN a pu remonter sur site. Elle effectue des travaux de sécurisation sur la serpentine. Selon nos informations, les dégâts sur les convoyeurs sont estimés à 1 milliard de francs. L'activité du site va donc pouvoir reprendre, mais avec du roulage pour descendre le minerai vers la mer. J'ajoute qu'en raison des travaux sur la serpentine, la circulation est perturbée sur la route municipale numéro 7. Depuis de nombreuses semaines, les soldats du feu sont surmobilisés sur tout le territoire. C'est notamment le cas en province nord. Les pompiers enchaînent les feux de brousse, bien souvent d'origine volontaire. Ce matin encore, ce fut une journée très active dans la zone VKP. 7 hectares sont partis en fumée entre le lotissement Les Cigales et la résidence Nagara à Koné. Un incendie qui a nécessité le renfort de la sécurité civile et d'un hélicoptère bombardier d'eau. Une niveleuse du service technique de la mairie est également intervenue pour créer un pare-feu devant le lotissement La Cigale. Les pompiers incendies sont intervenus sur d'autres incendies au cours de la journée. On écoute les précisions du commandant Silvio Loquet, chef de corps des sapeurs-pompiers de Koné.
Différents feux au niveau de différents lotissements de la commune. Bon, le plus important, c'est situé entre le lotissement Les Cigales et la résidence Nagara qui a fait 7 hectares. À l'heure où je vous parle, le feu est fixé. Il menace plus les habitations. Mais il nécessite une surveillance régulière. À part ce feu-là, on a eu également 3 feux au niveau de la tribune de Bakou, dont 2 qui ont menacé directement des habitations. On a eu également un feu de brousse au niveau du lotissement Grinac, près du complexe commercial Thierry, qui a impacté quelques clôtures d'un parti d'habitation, et notamment des cocotiers qui ont été plantés, qui a fait à peu près 60 ans, ça ce matin. Et 2 feux au niveau du lotissement Payamboué, ce matin et cet après-midi. Mais bon, les journées de ce type-là se ressemblent actuellement à Koné, quoi.
2 des 3 feux de la tribu de Bako ont pu être maîtrisés. L'autre est en évolution libre, car inaccessible des pompiers. Il ne menace pas les habitations. Quant aux feux près du complexe commercial Théari et près du lotissement Payamboué, ils sont tous les 2 maîtrisés. Une journée donc très active pour les pompiers, mais malheureusement habituelle. On écoute le commandant Loquet.
Par rapport à l'année dernière, c'est 100 feux en plus. C'est énorme pour un centre de secours comme le nôtre, parce que nous avons des moyens qui sont dimensionnés pour des interventions normales, pour le risque courant. Et là, le nombre d'interventions et quelquefois les surfaces qui sont impactées dépassent nos capacités d'intervention. C'est pour cela qu'on fait appel aux moyens de la sécurité civile, qui sont très réactifs. La chose, c'est que si on pouvait avoir moins d'activité sur les feux de brousse pour nous, ce serait plutôt profitable pour la population, parce que à partir du moment que nous sommes engagés sur les feux de brousse, avec les moyens on dispose, on met beaucoup plus de temps pour nous désengager de ces feux-là et ensuite intervenir sur des secours d'urgence à personne. Donc bon, je lance un appel aussi à la population quoi, pour faire passer le message à tout le monde.
Et puis à Nouméa, des feux ont été déclenchés ce matin vers 9h sur le terrain de foot de la Vallée du Tir. Les flammes ont rapidement pu être éteintes, mais la pratique du sport ne pourra plus se faire sur ce terrain très populaire du quartier pendant plusieurs semaines. Près d'un quart de la pelouse du terrain du côté de la voie express a brûlé. Le mémorandum signé entre le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan est nul et non avenu et il n'a aucune existence. C'est ce qu'a déclaré solennellement cet après-midi la présidente du Congrès, Velma Falaeo, Elisabeth Noir.
C'est un document qui avait fait couler beaucoup d'encre et qui avait suscité une très vive émotion. On apprenait en avril qu'Omer Haneslin avait signé à Bakou, au nom du président du Congrès, un mémorandum avec la République d'Azerbaïdjan, un pays autoritaire qui mène une répression violente à l'égard des Arméniens du Haut-Karabakh. Une signature validée par le président du Congrès de l'époque, Rokomiton, qui parlait d'une relation d'amitié et d'un réseau à l'international. Le problème, c'est que les élus du Congrès ont appris, a posteriori, la signature de ce mémorandum, qui ne leur a d'ailleurs jamais été transmis. Autre difficulté, Omer Haneslin et l'UUC n'avaient aucune légitimité pour engager le Congrès et pour signer un tel document. C'est ce qu'a d'abord souligné la présidente du Congrès, Velma Falaeo.
Madame Neslin, qui est donc celle qui a signé cet acte le 18 avril dernier, n'était pas vice-présidente. Donc officiellement et juridiquement, elle n'était pas habilitée à engager la responsabilité et le Congrès au nom du président. Ce qui fait que matériellement, aucun élu, ni moi-même, ni même l'administration, n'avons eu en fait copie de ce mémorandum. Et donc pour ces raisons, le mémorandum est juridiquement non existant.
Un document non existant donc, mais la présidente du Congrès va plus loin pour clore la polémique. Elle déclare ce document nul et non avenu. et elle appelle à se tourner vers l'avenir et à rétablir la confiance.
En tant que présidente et au nom du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, je déclare et je confirme que ce mémorandum est nul, non avenu, de nul effet, puisqu'il est sans existence. Ce n'est plus aujourd'hui un sujet pour le Congrès, ainsi que tout ce qui en découlerait. L'important aujourd'hui, c'est que nous devons rebâtir notre confiance en l'avenir, rebâtir notre confiance en nous, rebâtir la cohésion, rebâtir les structures et les emplois, surtout les lieux où nous faisons société, où l'on fait peuple, rebâtir l'unité.
Cette déclaration face à la presse intervient après un échange de courrier avec le haut-commissaire. Celui-ci avait formé un recours gracieux dans lequel il relevait l'illégalité de ce mémorandum. Louis Lefranc écrivait notamment que ce mémorandum qui vise des actions de coopération entre le Congrès et l'Assemblée de l'Azerbaïdjan ne peut relever que du champ de compétences des relations extérieures. L'Azerbaïdjan n'étant ni un État du Pacifique ni une collectivité locale étrangère, la Nouvelle-Calédonie ne dispose pas des compétences pour signer des conventions avec cet État ou l'une de ses institutions, ajoutait le haut-commissaire. Il demandait en conséquence à la présidente de retirer l'engagement de cet acte au nom du Congrès, et c'est donc chose faite. J'ajoute que la présidente du Congrès affirme vouloir se tourner vers l'avenir. Elle en veut pour preuve la réunion cet après-midi d'une commission plénière à huis clos, au cours de laquelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a présenté aux élus du Congrès le PS2R, le fameux plan de sauvegarde, de rénovation et de reconstruction.
Et l'ingérence de l'Azerbaïdjan, un sujet dont nous avons parlé ce matin en compagnie de Bastien Van Dendik, qui était notre invité à 7h30.
Nous avons interrogé le directeur de cabinet de la présidente de la province sud et spécialiste en relations internationales sur un récent courrier adressé par Stéphane Séjourné à Sonia Bakès, après que celle-ci l'ait alerté sur les risques d'ingérence étrangère en Nouvelle-Calédonie. Cela concerne d'abord effectivement l'Azerbaïdjan. Et Stéphane Séjourné, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, écrivait que, comme elle le souligne à juste titre, l'Azerbaïdjan a cherché à jouer un rôle en attisant les tensions en Nouvelle-Calédonie au mépris de la souveraineté française. En fait, de plus en plus, on a des preuves aujourd'hui de l'ingérence de l'Azerbaïdjan et de son influence dans les émeutes de mai dernier. Stéphane Séjourné parle de manœuvres informationnelles qui reposent sur des modes opératoires similaires aux méthodes russes. Les précisions de Bastien Van Dendik.
Oui, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan a copié ce que les Russes ont fait, notamment en Afrique subsaharienne, pour déloger les Français, pour critiquer l'action de la France. On l'a vu au Burkina Faso, au Mali. C'est souvent la même chose, c'est-à-dire l'utilisation de fake news, de fausses informations sur le fait que l'État abuserait des ressources premières sur ces territoires ou mettrait en place des politiques publiques discriminatoires, ce qui n'est bien évidemment pas vrai. Et l'Azerbaïdjan a réutilisé ces méthodes, beaucoup de désinformation, et les a calquées à la Nouvelle-Calédonie. Mais les calques également aux autres territoires ultramarins français.
Des méthodes de déstabilisation à l'encontre des intérêts français, et la Nouvelle-Calédonie n'est pas la seule concernée. On peut le voir par exemple avec ce qui se passe actuellement à la Martinique. Une interview de Bastien Van Dendik à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Allez, 17h58, on va marquer une première page de publicité dans ce journal avant de voir notamment comment fonctionne le marché de la démolition en Nouvelle-Calédonie. À tout de suite.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo ?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh !
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Et le marché de la démolition qui suscite un certain nombre d'interrogations. Il est énorme alors que plusieurs infrastructures ou entreprises ont été brûlées, détruites ou saccagées et qu'il faut démolir avant de reconstruire, Elisabeth.
Mais qui peut reconstruire ? Peut-on s'improviser démolisseur ou est-ce vraiment une spécialité ? Et à qui vont les marchés ? Il y a, vous le savez, une polémique naissante sur l'attribution de ces marchés de la démolition qui serait préemptée par certaines grosses entreprises. Nous avons fait le point avec Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud, qui suit ce dossier.
Effectivement, on entend régulièrement des gens se plaindre que dans les marchés de déconstruction, il n'y a pas assez de répartition de cette activité entre les petits, les gros. Je voudrais juste lever en fait une incompréhension. C'est pas la province sud qui gère ces marchés, ce sont pas des marchés publics de la province sud. La province sud, elle a un rôle réglementaire, elle a encadré la gestion de ces déchets issus des émeutes du 13 mai pour qu'on ne jette pas ces déchets n'importe où. Mais ceux qui passent commande, qui donnent du travail, ce sont en fait les privés, ce sont les entreprises qui déconstruisent leurs bâtiments qui malheureusement été brûlés par les terroristes de la CCAT, donc soit sur leurs fonds propres, soit avec les indemnités des assurances. Donc nous, la province, nous n'avons aucune légitimité pour leur imposer quoi que ce soit sur la façon dont ils attribuent ces marchés. On peut sensibiliser le monde économique à cette question parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, la question du soutien aux petites entreprises et du maintien de l'emploi.
Mais outre la démolition, il y a un autre sujet, c'est celui de la gestion des milliers de carcasses qui ont été enlevées par les forces de l'ordre quand elles ont déblayé les routes. Et il va y avoir un marché pour le traitement de ces carcasses.
L'État, sur un budget exceptionnel, a nettoyé les rues, a récupéré des milliers de carcasses et va se poser la question de ce qu'on fait de ces déchets qui sont entreposés sur un terrain qui nous appartient, nous, la Pointe Sud, sur le remblai de la baie de Kutukuta. Je tenais à dire que même si nous n'avons pas, nous, la main sur ces marchés des constructions, on est très sensible à cette problématique. Et on va avoir cette semaine des rencontres importantes avec le gouvernement, avec l'État, puisqu'il y a, vous savez, la présentation du plan S2R. Et je crois que c'est un sujet qu'il va falloir qu'on évoque, parce qu'effectivement, c'est très important que dans le soutien à l'économie, la lutte contre le chômage, on n'oublie personne, les gros, mais les petits aussi.
Et la province, de son côté, gère la question environnementale qui est fondamentale dans ce type de dossier.
Selon l'accord de Nouméa, la loi organique, ce sont les provinces qui sont compétentes en matière d'environnement. Et donc c'est nous qui portons, au travers du Code de l'environnement et de la réglementation des déchets, cette compétence. Et donc effectivement, on a pris des textes pour s'assurer que tous ces déchets exceptionnels, hein, où il peut y avoir des produits plus ou moins toxiques, ne soient pas jetés dans la nature. Donc il y a des dispositions qui ont été prises avec les Gadji, il y a des questionnements sur l'export des déchets toxiques. Enfin, tout ça est suivi de très près par nos services. Mais encore une fois, nous, notre rôle, c'est de fixer les règles du jeu. Après, tout ce qui relève des marchés, ce sont des marchés privés. Et donc ça, c'est un débat, c'est une discussion qui doit avoir lieu entre les acteurs du privé, sous l'égide des organisations patronales, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie. Mais évidemment, nous, on va faire avancer cette question, hein, on va la mettre sur la table, parce qu'on est très préoccupé par ces questions-là. C'est pour ça que la province, qui est le plus gros investisseur public depuis plusieurs années, loin devant le gouvernement, est très préoccupée de maintenir sa capacité à investir et donc fait les efforts financiers en ce sens, parce qu'on a une responsabilité pour aider les entreprises à survivre.
C'était les précisions de Philippe Blaise, le premier vice-président de la province sud.
Merci Elisabeth Noir. Notez ces rendez-vous d'antenne. L'événement Sotec So Good se déroulera mercredi et jeudi à Nouméa, un rendez-vous international des acteurs de la tech avec près de 10 communautés French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Nous en parlerons demain matin en compagnie d'Aurore Kepler, le manager de la French Tech Nouvelle-Calédonie et organisatrice de l'événement. Elle sera notre invitée du matin à 7h30 pour nous présenter cet événement. Et l'accompagnement des demandeurs d'emploi en province sud, ce sera le thème demain de notre magazine Citoyen. Nous serons en compagnie de Marie Benzaglou, la directrice de l'emploi et du logement de la province sud, de Stéphanie Galliot, la chef de service de l'emploi et du logement de Nouméa de la province, et d'Ève Dumas, conseillère à l'emploi de la province sud. Une émission à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, 5 mois après le 13 mai et le début des violences insurrectionnelles, pensez-vous que l'on a atteint le retour à la normale? Si vous pensez que l'on est au retour à la normale, vous tapez 1. Si vous pensez que ce n'est pas encore le cas, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Et 18h04, on va marquer une deuxième et dernière page de publicité dans ce journal avant de voir tout le reste de l'actualité.
RRB, la pub.
Salut voisin.
Mais pourquoi tu tends ta pelouse avec ça?
Ma tondeuse marche plus. Alors pour trouver un réparateur pas trop loin d'ici, de confiance et pas trop cher, c'est galère. Hein.
Non mais bon, de là à tendre ta pelouse avec des ciseaux...
Avec Bonus Répare, remettre en état ses outils de jardin thermique, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est au bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Soir, Léna Colombo.
Une minute de silence sera observée cette nuit pour nous en métropole pour rendre hommage aux deux professeurs assassinés. Dominique Bernard, mort il y a un an jour pour jour, et Samuel Paty, décédé le 16 octobre 2020. Un hommage qui se déroulera également en Nouvelle-Calédonie, mais en raison des vacances scolaires. La minute de silence se déroulera la semaine prochaine, lundi ou mardi, au choix des établissements. Et passons à l'actualité dans la région Pacifique. Charles III et son épouse vont effectuer une visite en Australie avant d'assister à la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra ensuite au Samoa. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le roi et son épouse arriveront vendredi soir à Canberra où leur programme officiel ne débutera toutefois que lundi. Le palais de Buckingham a indiqué dans un communiqué que, je cite, les activités du couple se concentreront sur des thèmes conçus pour célébrer le meilleur de l'Australie. Le roi déposera aussi une gerbe au Mémorial militaire de Canberra lundi midi, avant d'être officiellement accueilli au Parlement par le Premier ministre Anthony Albanese. Le couple royal s'envolera ensuite pour Sydney, où un bain de foule est notamment prévu sur les marches de l'Opéra. Un barbecue communautaire est également programmé. Le roi et son épouse quitteront ensuite l'Australie pour Apia, la capitale du Samoa, où se tiendra la réunion annuelle des chefs de gouvernement du Commonwealth. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Retour sur le territoire et en ce mois d'octobre, c'est un océan de savoir qui va déferler sur la Calédonie. À l'occasion de la fête de la science, organisée sur le territoire du 18 au 28 octobre, de nombreuses activités seront proposées gratuitement pour tous les curieux de 7 à 77 ans, Charlotte Coulson.
Nul besoin d'être expert en sciences pour participer à cet événement. C'est même tout le contraire puisque les scientifiques viennent à la rencontre des Calédoniens et mettent à disposition leur savoir. Le thème sélectionné cette année est donc océan de savoir, une thématique vaste qui comprend l'entièreté du savoir scientifique mais qui rajoute ce lien à la mer. Un thème qui n'est pas inconnu des Calédoniens, explique Pascal Coupé, représentant ministériel pour la recherche et l'innovation auprès du haut-commissaire.
Là, c'est vrai que ces deux dernières années, on est gâté parce que le changement climatique, l'année dernière, on était quand même un hotspot du changement climatique sur la région Pacifique, donc c'était vraiment pile dans le thème et la Nouvelle-Calédonie a pu profiter de ce sujet-là pour pouvoir exprimer toute la recherche scientifique qui se fait sur le territoire. Et sur la partie océan, c'est vrai qu'entre l'IFREMER, l'IRD, l'Université de Nouvelle-Calédonie, il y a énormément de travaux qui sont faits autour de l'océan. Et donc ce sont des choses qu'on va pouvoir montrer au public. Dans ce contexte difficile cette année, c'est cet échange et autour de la science, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et donc, ça va être très important pour eux de pouvoir présenter leurs travaux scientifiques et de pouvoir les partager avec le public.
Et l'objectif sera de faire découvrir les problématiques liées à l'océan de manière ludique, mais aussi parfois de susciter des vocations pour les plus jeunes. Cette édition se veut plus proche des Calédoniens grâce aux nombreuses activités gratuites proposées durant 10 jours. L'occasion de contribuer au vivre ensemble d'une manière différente, selon la présidente du CRECICA, Catherine Rhys.
On est dans une année bien particulière pour la Nouvelle-Calédonie. Il nous semblait tout à fait important pour nous, CRECICA, de prévoir une édition qui soit en résonance avec ce que vit actuellement la Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est extrêmement important de rassembler aujourd'hui les Calédoniens sur ce qu'ils ont à partager. Et je pense que la connaissance de leur environnement culturel, linguistique, biologique, environnemental, est un élément essentiel qui peut les rassembler. Ils ont ça à partager et partager des connaissances sur ce patrimoine commun est quelque chose d'extrêmement important. Donc c'est vraiment en ce sens-là que j'espère que cette édition va contribuer au vivre ensemble.
Parmi les événements phares à retrouver, on citera une matinée découverte des coraux à la Maison de la Biodiversité ce samedi et une journée présentation des métiers de la santé la semaine prochaine. L'événement sera aussi plus inclusif avec notamment des activités organisées à destination des personnes en situation de handicap et ouvertes à tous. Nadège est éducatrice spécialisée à la Maison Gabriel Pouedi. Elle nous détaille l'événement qui se déroulera vendredi 25 octobre à la baie des Citrons.
Les jeunes de la maison Gabriel Pouedi vont pouvoir présenter le tir à l'eau qui leur permet d'avoir accès à la mer. C'est une sorte de transat de mer où ils sont installés dedans, qui a une flottaison et qui peut être transporté sur le sable. Les gens vont pouvoir aussi se mettre en situation, des personnes en situation de handicap et venir tester le tir à l'eau. Ressentir les mêmes sensations qu'eux, être installés dans le tir à l'eau, avoir cette impression d'apesanteur et profiter d'un moment aussi de partage avec nos jeunes. Les jeunes en situation de handicap ont besoin d'être inclus dans la société et de montrer aussi tout ce qu'ils sont capables de faire et qu'ils peuvent aussi, comme les autres, avoir accès à la mer.
Le programme complet est à retrouver sur les sites internet du Cressica. Ce sera également l'occasion de fêter les 10 ans d'existence du consortium, mais aussi les 40 ans de l'IFREMER.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie met en ligne Géorisque, un portail d'informations géographiques dédié aux aléas naturels. Ce site offre un accès simplifié aux données comme les mouvements de terrain, l'érosion du littoral ou encore la présence d'amiante via une carte interactive. Ces données seront régulièrement mises à jour. Il vous sera même possible de contribuer à enrichir ces informations en signalant vos observations. Les données recueillies et diffusées ont pour objectif d'appuyer les politiques publiques locale, que ce soit dans le domaine du logement ou des transports.
RRB 18h11.
Et un rendez-vous pour les parents ou les futurs parents. À l'occasion de la semaine de l'allaitement maternel, la province Sud, en partenariat avec l'association SOS Allaitement, organise plusieurs rencontres-discussions, Charlotte.
Soutenir l'allaitement pour toutes en réduisant les inégalités. C'est la thématique choisie cette année par l'association. Que les mères ou les enfants soient porteurs de handicap, que les moyens financiers de la famille soient bas, donner le sein reste une option accessible pour beaucoup de personnes. Les précisions de Natacha, bénévole à l'association SOS Allaitement.
Chaque année, la SPAM a un thème particulier. Cette année, c'est réduire les inégalités et surtout soutenir l'allaitement pour tous. Donc nous, pour promouvoir soi, on a voulu faire des interventions un peu dans tous les lieux et pas s'axer que sur Nouméa. Et soutenir l'allaitement pour tous, c'est aussi pour tous les types de budgets. Donc faire comprendre que l'allaitement, ça permet aussi de faire de l'économie. Parce que quand même, acheter des biberons, acheter du lait maternisé, ça revient à un certain budget que l'allaitement, c'est gratuit. Et que c'est bon pour son enfant, encore une fois. Et l'allaitement pour tous, c'est aussi savoir que même si on est handicapé, que la mère est handicapée ou que l'enfant présente un handicap, l'allaitement, il reste possible. Il faut juste être accompagné pour pouvoir le réaliser, parce que forcément, ça présente plus de difficultés et de préparation en amont.
Natacha, qui est donc bénévole à l'association SOS Allaitement, qui organisait d'ailleurs ce matin une rencontre au CMS de Boulary. Sur place, une maman accompagnée de sa petite fille de tout juste un an. Comme beaucoup de parents, elle appréhendait sa naissance et le début de l'allaitement, mais est aujourd'hui très contente d'avoir pris la décision de lui donner le sein.
Pour moi, ça s'est passé merveilleusement bien. Ça se passe encore merveilleusement bien parce que je l'allaite toujours. Et comme on peut le voir, c'est un beau bébé avec de jolies cuisses. Mais oui, je trouve que c'est important en fait parce que j'ai lu beaucoup de podcasts, de petites choses sur Internet quand j'ai accouché. Et ça m'a fait très peur. Donc heureusement qu'il y a des associations comme SOS Allaitement qui peuvent répondre à nos questions pour nous aider. Parce que les choses qu'on lit parfois sont pas toujours vraies. Et c'est vrai que du coup, quand on a des réponses, ça nous soutient dans la continuation de ce qu'on fait.
Et de nombreuses rencontres sont organisées tout au long de la semaine, dans le Grand Nouméa, mais aussi à la bibliothèque de Bouraille ce mercredi. Et samedi, l'association clôture cette semaine consacrée à l'allaitement en organisant un après-midi au Jardin des Parents, au Motorpool, de 13h à 17h.
On passe au sport avant de clôturer ce journal. Face à la crise, le volley calédonien s'organise. La nouvelle équipe à la tête de la Ligue a des ambitions pour redynamiser la discipline et inciter les jeunes à suivre la voie du sport. Nous en avons parlé ce midi dans le MAC des sports, en compagnie de Moïse Calémou, le nouveau président de la Ligue, ainsi qu'Harmonie Connu, également membre du bureau extrait.
Il y a eu le 13 mai, donc comme certains ligues, clubs et comités et tout ça, donc grande difficulté pour tout le monde. Mais on est une équipe jeune, dynamique, donc je pense qu'on va relever le défi d'aller chercher des solutions pour ramener les licenciés sur le terrain et tout ça.
Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on apporte notre pierre à l'édifice pour redynamiser et redonner la place du volleyball ici en Calédonie.
Avec mon comité directeur, donc on a établi un projet de relance par rapport au volleyball calédonien. Donc il fallait voir avec la fédération par rapport aux contraintes qu'on a ici au niveau des paiements de licences. Donc négocier une licence gratuite pour justement faciliter la pratique. Avec ce qui se passe économiquement, la Ligue a pris cette responsabilité-là, plus possible les négociations avec la fédération pour avoir des licences gratuites cette année.
Pour la fin de l'année, vous avez déjà ciblé des axes.
Pour la fin de l'année, une organisation dans le nord, dans les îles et sur le sud, où on va faire des petits mini-séminaires, on va faire un état des lieux de ce qui se passe en général dans chaque région, au niveau du volleyball en général. Et aussi, on va relancer un petit peu sur des tournois jeunes. Et ce qui est important, c'est de donner une visibilité, une feuille de route pour 2025, pour que l'année 2025 arrive avec plus de sérénité.
Un autre axe important que vous souhaitez mettre en place, c'est tout ce qui se passe autour du beach volley.
Pour redynamiser là, durant cette fin d'année, on a axé nos projets en tout cas sur les jeunes et sur le beach volley. Donc on aura 3 dates dans chaque province pour pouvoir toucher le maximum de monde. Donc ça fera vraiment la fête du volleyball dans chaque province. C'est vraiment ça l'idée, faire en sorte à ce que le beach volley puisse être un des axes de développement majeurs durant notre mandature.
Moïse Calimou et Harmonie Connue de la Ligue calédonienne de volleyball. Un Mac des Sports à retrouver dans son intégralité en podcast sur notre site internet rrb.nc. 18h16, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la SET. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La SET, construire, rénover, aménager.
Alors Nicolas, que nous réserve cette semaine?
Alors cette nuit plutôt. Et demain matin, pas la semaine
Exactement.
Entière.
Bon, je fais tout, moi. Je veux grave. Tout savoir.
Cette nuit, une bande de nuages bas remontera sur la pointe sud, puis l'est et les loyautés. Elle donnera de faibles averses sur l'extrême sud en deuxième partie de nuit. L'alizée d'est-sud-est dépassera souvent les 20 nœuds avec des rafales autour de 30 nœuds en soirée, voire proche de 25 nœuds sur la pointe nord-est avec des rafales de 35 à 40 nœuds. Les températures seront comprises entre 18 et 21 degrés près des côtes et de 14 à 17 degrés dans l'intérieur. Demain matin, le soleil sera plus souvent gris et maussade. Des nuages bas et de faibles averses circuleront également sur la côte est et les loyautés. L'alizée d'est-sud-est restera soutenue, souvent proche de 20 nœuds, voire 20 à 25 nœuds, avec des rafales de 30 à 35 nœuds sur l'est et le sud-ouest.
Et merci beaucoup Nicolas pour la météo de cette nuit et de demain matin et la technique. C'est la fin de cette édition.